Bonjour à tous, c'est l'heure de partir nous évader avec Christian Cayol, notre baroudeur de Radio Galaxie. Bonjour Christian.
Bonjour Francis, bonjour à tous. Et puis surtout Francis, bonne année à toi et puis à tous ceux qui nous écoutent, une très bonne année 2020.
Et oui, n'oublions pas, c'est vrai que 2020, ça sera une belle et bonne année pour tout le monde, je suis certain.
Exactement. Voilà.
Alors aujourd'hui, nous quittons la Haute-Garonne pour aller faire un voyage insolite du côté de la Manche. Sauf si tu as changé d'avis au dernier moment, non ? Ou de destination ?
Non. Et non, non, non.
On reste sur la Manche.
On reste sur la Manche.
En plein hiver. Oh, il fait froid là-haut, non ?
Oui, écoute, on fera avec. Hein.
Bon, d'accord.
Voilà.
Oui. Où tu nous amènes ? J'ai vu que sur ta vidéo, qui est très très sympathique, il n'y a pas de VTT, ça peut se comprendre. Mais voilà, la vidéo est très sympa.
Le VTT, j'ai de moins en moins de motivation pour m'asseoir dessus, pour rouler. C'est vrai, et il n'y en a pas. Voilà, bon, maintenant, les émissions vont se... Non, il y en aura quand même quelques-unes avec du VTT. Et certaines, non, comme celle-ci, par exemple. Je n'ai pas eu trop de motivation pour ça. Alors, je vous propose donc une balade entre mer et mer. Hein, c'est pas toujours comme ça, c'est pas souvent. Et un bout de France exceptionnel, même, j'allais dire, presque un bout du monde. Ah, tiens, il se met à pleuvoir. Ici, le matin, on peut assister au lever du soleil sur la mer en tournant la tête à gauche. Et puis le soir, on peut photographier le coucher en tournant cette fois la tête vers la droite. Ah ben t'es, la pluie s'est arrêtée. C'est le Cotentin. La diversité des paysages, des couleurs et même des saveurs ont fait de cette presqu'île une destination précieuse, presque confidentielle. Ah ben t'es, il pleut. Une nature simple, sauvage, préservé, baigné d'air pur océanique, convoité à de multiples époques, parfois martyrisé, un territoire aux nombreux jardins d'agréments ou du souvenir. Eh, il refait beau, chouette. Allez, comme je viens de le dire, le Cotentin est un immense jardin. Alors je vous y emmène.
Et t'as pris l'accent en plus.
Je sais pas, je fais pas exprès. C'est comme ça. Alors, grâce au Gulfstream, apportant un microclimat légendaire, de nombreux passionnés ont planté toutes sortes d'arbres et de plantes uniques en créant de splendides jardins. Voici un choix qui n'est pas exhaustif. À Vauville, le jardin du voyageur, où les plantes australes sont face à la mer et au vent. Beaucoup de fleurs, de palmiers et de bambous. À Castillon, un autre lieu remarquable créé pour le plaisir des yeux, qui met en valeur plus de 2000 variétés de plantes, avec des perspectives savantes, des bassins précieux, une orgie de couleurs, une pure merveille. Et puis, le château de Brécy. Lui, il vous proposera un des rares jardins à la française, qui va s'étager sur 4 terrasses reliées par un bel escalier à degrés. Balustres, vases, pilastres, sculptures, rosiers, taupières, le font ressembler à un petit Versailles. Encore un autre, ou plutôt une maison dans un jardin. La maison de Prévert, à Aumonville-la-Petite. En fait, la maison ne m'a pas intéressé du tout. J'ai préféré un petit jardin fleuri de l'autre côté de la route, dans lequel se trouve sa statue en bronze, représentant le poète sur un banc en compagnie d'un ami. C'est paysager, fleuri, une promenade agréable, au pays, bien sûr, du poète. Voici maintenant un dernier jardin méconnu à Caen. Il s'appelle Luna Rossa, un petit parc à vocation de sauver des œuvres d'art brut, hors norme, souvent abandonnées et donc en péril. Une quinzaine d'artistes autodidactes qui ont laissé des créations le plus souvent statues en béton ou encore faites de matériaux de récupération, avec tout ce qui leur est passé sous la main, de briques et de brocs. C'est un peu grunge, mais c'est quand même sympa. Dans la même série d'art brut ou singulier, il faut absolument se rendre à Siouville, voir la maison des coquillages. Voilà une pépite comme je les aime. Une petite maison.
Originale.
Très, sur un terrain en longueur. Je pensais, en y allant, je me suis dit, c'est pas possible que tu aies l'occasion de rentrer. Je me disais, je vais la voir depuis le portail. Une chance incroyable, les propriétaires sont dans le jardin. Alors, on a sympathisé, discuté un petit peu, monsieur et madame Clément. ils ont accepté gentiment de nous faire visiter leur sweet home, tout en commentant leur passion un peu envahissante. Mais c'est beau, c'est harmonieux. Neptune, ici, une sirène, orques, requins, oiseaux marins, décorent le petit jardin qui entoure la maison, elle aussi recouverte de milliers de coquillages. Une œuvre d'art. C'est extraordinaire, c'est unique, c'est un régal. Et puis, des gens charmants, oscillant entre le désir de faire plaisir en se prêtant aux multiples demandes de visite, le besoin de reconnaissance, mais d'un autre côté, la crainte de n'avoir plus aucune tranquillité. Les curieux, certains jours, affluent toute la journée, ne respectant même pas la propriété privée, n'hésitant pas à enjamber le portail. On a parlé d'arbres, de sympathiser, et je conserve de cette visite un sentiment d'avoir passé un excellent moment avec des gens simples, appréciant énormément les cadeaux de la mer, désireux de décorer leur environnement, et dont le loisir est devenu une passion. Tous ces coquillages nous rappellent que la mer est toute proche.
Et on peut retrouver sur ta vidéo, on le redit,
les images voilà. De tout ce qu'on vient de parler, et beaucoup d'autres, sur ma vidéo,
qui est
en lien sur le site Radio Galaxie 31, sur mon site perso, vous avez l'habitude, randovttvideo.free.fr.
Ça s'appelle « En faisant la manche ».
Voilà, « En faisant la manche ».
C'est un vagabond, on le dit.
Intéressons-nous au littoral. Alors oui, là c'est beau, surtout les couleurs. Les paysages ont été dessinés par les vents, les embruns et les vagues. Entre les caps s'élèvent des massifs dunaires, falaises, landes, plages de sable fin ou de galets, dessinant des paysages d'une richesse infinie au bout du monde. Mon panorama préféré, c'est aussi le plus connu et le plus visité, mais rien à voir avec le Mont Saint-Michel. Il n'y a pas foule. C'est celui que l'on a à l'extrémité méridionale du Cap de la Hague. Il s'agit du Nez de Joubourg. C'est sauvage, préservé de toute construction, si ce n'est les murs de pierre séparant les parcelles recouvertes de genêts en fleurs. Au bout du monde, à 130 mètres de hauteur, réserve ornithologique abritant, entre autres, des cormorans huppés, des goélands et des bouvreuils. Sur le Cotentin, les milieux naturels, la faune et la flore sont protégés par le Conservatoire du littoral, qui lui a pour but de protéger, d'entretenir et de suivre 4000 hectares où s'étage une végétation habitée d'espaces rares, 3 réserves naturelles sur 1000 hectares, et le parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin, quant à lui, se déploie sur 146 000 hectares de bocages, de champs vallonnés, entourés de haies et de zones humides. Au cœur des marais, le château de la rivière. Là, on est dans le tourisme hors des sentiers battus. À Saint-Fromont, depuis plus de 20 ans, il est le lieu de nidification des cigognes qui se sont installées sur ces hauteurs de ces ruines mystérieuses. De nombreux nids, pour un grand nombre d'individus, qui peuvent chasser sur 30 000 hectares de marais, dans lesquels regorgent insectes, grenouilles, rongeurs. Il est possible de venir les observer sans les déranger. On dirait une épave au milieu d'un marais, et le marais, un paradis pour les échassiers.
Ah ouais, ça c'est insolite, effectivement.
On peut se demander que fait ce château, semblant perdu, là, presque inaccessible, en plein marais. Il faut remonter au XIe siècle. C'est une propriété du demi-frère de Guillaume le Conquérant. Il fait construire le château en 1090. On dit à cette époque que la mer venait lécher les remparts. Aujourd'hui, elle est à 10 km. C'était un point de contrôle de communication sur la Vire, entre Saint-Lô et Isigny. À cette époque, il était plus rapide de naviguer sur un cours d'eau que de prendre les chemins interrompus par l'absence de ponts. Il a été habité jusqu'en 1944. Date à laquelle il a été gravement endommagé par les combats du débarquement. Ensuite, les pierres sont vendues ou pillées, ce qui sonnera le coup de grâce pour ce château millénaire. La transition est toute trouvée pour aborder le débarquement, mais je ne vais pas m'y attarder. Ce sont des faits extrêmement importants, certes, mais tellement relatés que je n'ose pas ajouter grand-chose, juste un petit mot. Le débarquement en Normandie, entre le 5 et le 6 juin 1944, a été réalisé par 5000 navires, transportant 156 000 hommes, soutenus par 11 000 avions. Ça a été un tournant dans le conflit Seconde Guerre mondiale. Une opération aéronavale qui reste la plus gigantesque de toute l'histoire. Il est à déplorer des milliers de morts, de part et d'autre, mais aussi parmi la population civile. Le soir du D-Day, 10 600 tués dans le camp allié, 6 500 dans le camp allemand. Pour la totalité de la bataille de Normandie, 37 000 tués côté allié et 163 000 blessés. Côté allemand, 80 000 morts, 170 000 blessés. En ce qui concerne la population civile, des estimations, uniquement des estimations, on n'a pas de chiffres bien précis, moi je ne les ai pas trouvés, entre 20 et 50 000 morts. Quels que soient les chiffres, le débarquement et la bataille de Normandie ont eu des conséquences dramatiques pour la population civile normande. Il faut vraiment s'en souvenir de ça. Les sites de mémoire et de monuments, de musées, de batteries, de cimetières ne manquent pas. Personnellement, j'ai bien aimé les sculptures du genre grillage moulé, figurant des soldats transparents, en action, face à la mer, au Mémorial Royal d'Engineers, sur les hauteurs d'Arromanches. Il y aurait tant à dire, mais je préfère vous raconter quelque chose de beaucoup moins connu, plus futile et aussi moins triste. Je vais vous parler du château de Pirou. Alors là, c'est une forteresse du XIIe, implantée sur un site viking. Elle est construite au milieu d'un petit étang, de telle sorte que pour entrer, il fallait franchir 5 portes fortifiées, un château imprenable. Ici, une vieille légende perdure. Je vous la raconte. La forteresse a pendant longtemps été un frein d'arrêt aux conquêtes des Normands. Ne pouvant la prendre d'assaut, ils décidèrent d'en faire le siège, qui dura très longtemps. Un jour, silence de mort, le château était vide. Seul reste un vieillard. Il explique qu'avec l'aide d'un vieux grimoire, le seigneur, toute sa famille et toute sa maison s'étaient transformés en oies sauvages pour échapper aux assaillants. Un certain temps après, les oies sont revenues chercher le grimoire permettant de reprendre leur forme humaine. Hélas, les vikings avaient mis le feu au château, faisant disparaître le livre de magie. Ainsi, chaque année, au printemps, les oies reviennent dans l'espoir de retrouver le grimoire et repartent en automne sans l'avoir trouvé. Voilà la légende des oies de Pirou. Pirou ou Pirette, en normand, ça signifie les oies.
Bravo.
Bon, maintenant, une extraordinaire tapisserie. Tout le monde connaît la tapisserie médiévale de Bayeux, ou tapisserie de la reine Mathilde, longue de 69 mètres, représentant l'histoire de la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066. Vous avez tous au moins vu des images. Magnifique, mais les photos sont interdites. Alors, si comme moi, vous trouvez cela injuste, énervant, boycottez, et venez plutôt découvrir celle au château de Pirou. Elle raconte l'histoire normande depuis l'arrivée des Vikings sur les plages du Cotentin jusqu'à la conquête de la Sicile, des faits allant de 1030 à 1063. D'abord, un poète a eu l'idée de réaliser cette fresque sur une bande de lin brodée. Une brodeuse, Thérèse Ozen, va s'investir. C'est pas vieux, hein. 1976 à 1992, à raison de 3 heures par jour, en faisant 1,5 cm de broderie à l'heure, soit 10 mètres par an. Le dessin est dans un premier temps calqué, puis décalqué sur une toile de lin, avant d'être brodé. La longueur de la tapisserie fait 58 mètres. Avant de se lancer dans ce magnifique chef-d'œuvre, l'artiste s'est entraîné pendant un an avec une aiguille à tapisserie et une LED à broder de 4 fils, pour apprendre et maîtriser la technique identique à la tapisserie de Bayeux. Un incroyable travail pour un résultat magnifique. Dans ce château très remarquablement restauré, la présence de cette tapisserie en fait un site immanquable. Et en plus, les photos sont autorisées. Regardez ma vidéo, vous allez être surpris par la qualité et le dessin de cette tapisserie.
Ouais, c'est un sacré exploit, effectivement.
Oui, ouais. Oui, oui. Et alors, on a l'impression que c'est vieux comme la tapisserie de Bayeux, alors que ça date de la fin du XXe siècle. Passons d'un site viking à l'autre. L'île de Tatiou. Son nom est d'origine viking. En effet, « ou » signifie « terre entourée d'eau » et « tat », eh bien, j'en sais rien. Sans doute un nom propre. Un espace naturel de 28 hectares sous le contrôle du Conservatoire du Littoral. À découvrir un musée d'épaves maritimes, un autre jardin regroupant des espèces endémiques de la Manche, une réserve ornithologique où il est possible d'observer plus de 150 espèces d'oiseaux et une tour Vauban. Cette île témoigne de 300 ans d'histoire. En effet, de 1722 à 1892, les marins y seront mis en quarantaine sur l'île. Mais surtout, la bataille de la Hougue, le Trafalgar de Louis XIV, où une grande partie de la flotte française sera détruite par une coalition anglo-hollandaise en 1692. Une défaite rarement évoquée. Elle est ignorée des profanes. L'origine du conflit. Le roi catholique Jacques de Stuart est évincé du trône d'Angleterre par Guillaume III, son gendre de religion protestante. Jacques II se réfugie en France sous la protection de son cousin Louis XIV. Un projet de débarquement en Angleterre s'organise à la Hougue, avec 20 000 soldats qui attendent l'arrivée de la flotte française pour partir. La flotte arrive incomplète, composée seulement de 44 bateaux. La bataille. Au large de Barfleur, la flotte fait face aux 99 bateaux anglo-hollandais, dans un combat intense qui se termine souvent au corps à corps. Les Français résistent pour ne pas être encerclés avec tout ce nombre de bateaux. Heureusement, par chance, à 22 heures, la marée, le vent et la brume jouent en notre faveur. 35 vaisseaux s'échappent vers Brest. Mais à cause des courants trop forts, un certain nombre doivent faire demi-tour. 3 seront incendiés dans la rade de Cherbourg. Les autres filent vers la Hougue. Donc on est tout proche de Tatiou. À l'arrivée de la flotte ennemie, les vaisseaux français se précipitent volontairement sur les rochers pour ne pas que les bateaux soient pris. La coalition brûle les navires encore à flot devant l'île de Tatiou et de la pointe de la Hougue. Cette raclée aura eu le mérite de faire comprendre au roi que l'absence de protection de l'île et de la rade est la cause de cette défaite. Les leçons. Deux forts sont alors érigés par Vauban en 1694, formant un ensemble défensif sur l'île de Tatiou et en face à la pointe de la Hougue. Des enceintes de défense, remparts, bastionnés, poudrières, douves, toutes les techniques de Vauban sont là. Les deux batteries de canons, sur l'île et sur la pointe, croisent leurs tirs pour assurer la défense de la rade. En 1708, les Anglais firent une nouvelle tentative d'invasion avec 60 navires. Sous les tirs des deux batteries, les British ne purent accoster. Moralité, Vauban avait vu juste. Il fallait se méfier de nos amis anglais, même à l'époque. Bien entendu, je vous invite à ce voyage où vous garderez pas les bras croisés, ni les mains dans les manches, dans les poches, avec en permanence le parfum du Chanel. Regardez ma vidéo sur le site dont on vient de parler. Elle se termine comme toujours par l'aquarelle de Nadine. Cette fois, elle a peint la pointe du Hoc au lieu du débarquement bien connu. Le mois prochain, je vous emmène voir la belle Vézère, ou le label Vézère, comme vous voudrez. Voilà, c'est tout au moins le titre de ma vidéo et de l'émission. En attendant, mais je vous dis comme chaque fois, eh bien bougez, mais bougez
vers la Manche.
Bougez vers la Manche, mais bougez en France. Voilà. À bientôt.
À bientôt.